c'est ainsi, nous devons voir en métaphysique la personne. Alors, je fais un cours d'introduction. Donc, je rappelle des quantités de choses pour ceux qui sont deuxième année, troisième année. Mais pour le début, il faut essayer d'entrer dans ce que représente la démarche philosophique telle qu'Aristote l'a comprise. Pourquoi prenons-nous Aristote? C'est saint Thomas qui nous conduit à ça. Saint Thomas a eu dans sa vie, très vite, hein, je crois peut-être, il avait 25 ans ou 27 ans, il a compris tout de suite qu'il fallait quitter la manière dont on enseignait la théologie. Pierre Lombard, les sentences. Il faut jeter son nez une fois dans les sentences. Pas en première année peut-être, mais en seconde année. Et regarder la différence des sentences et de la somme. J'ai fait ça pendant les 10 premières années de mon enseignement. Ça m'intéressait beaucoup. Parce que ça fait comprendre ce que Aristote a apporté à saint Thomas. Et c'est toujours important. Alors, la remarque qu'il ne faut jamais oublier, saint Thomas considère Aristote comme le philosophe. Saint Thomas ne fait pas une œuvre philosophique. Il considère que Aristote, c'est le philosophe. Il fait une œuvre de théologien. Et il fait une œuvre de théologien pour mettre de l'ordre. C'est ça, la sagesse. La sagesse ordonne. C'est le propre de la sagesse. Pour pouvoir ordonner, il faut avoir un premier. Si on n'a pas un premier, on ne peut jamais ordonner. Et ce qui vient après le premier, le principe princeps, le principe n'est pas une loi. Il faut bien, nous sommes habitués, nous, à considérer ce qu'une loi. Le principe, c'est l'intelligence humaine qui saisit dans la réalité, pas en elle, dans la réalité, ce qu'il y a de plus profond. C'est la recherche des principes. Et la recherche des principes, c'est Aristote qui l'a découvert en face de Platon. Donc, c'est toujours très important de revenir au point de départ, à la source, Platon, Aristote. En première année, il ne faut pas trop se fourrer dans Platon. C'est très attrayant, Platon. Hein. C'est un repos, en ce sens que c'est beaucoup plus intéressant qu'Aristote. Mais Aristote, c'est le travailleur, à côté de Platon, qui est l'artiste. On aime les artistes. C'est un grand artiste, Platon. Un très grand artiste. Chacun des dialogues de Platon, c'est la construction d'un édifice. Il n'y a pas d'unité dans Platon, au sens aristotélicien, unité de la pensée, c'est chaque chose et chaque dialogue est un petit monde. Et c'est très intéressant. Je crois que c'est bon de lire du Platon, surtout quand on est un peu fatigué. Bon, je veut lire de Platon, parce que Aristote, on était un peu fatigué, ça augmente la fatigue, et donc le sommeil. Il faut comprendre que toute la philosophie grecque, pour nous, est très importante. Pourquoi ? Parce que saint Thomas, au début de sa vocation, a enseigné Pierre Lombard les sentences. Et il a compris que les sentences n'étaient pas suffisamment formatrices pour découvrir l'ordre de sagesse de la théologie. Saint Thomas est le premier, à la suite des pères de l'Église et des premiers théologiens, d'avoir essayé de préciser exactement ce qu'est la théologie. Et au fond, il est né, il en a la conviction, pour être un théologien. Et de puiser par le fait même la théologie à Aristote. Il a fait ça très vite. Il a enseigné au début Pierre Lombard, donc ce qui était classique depuis 100 ans. Depuis 100 ans, on a étudié Pierre Lombard. Et Pierre Lombard, c'est un peu un cafouille. C'est très intéressant, mais c'est un peu... Il faut lire du Pierre Lombard pour s'apercevoir la différence entre saint Thomas. Pierre Lombard était le maître. Et saint Thomas a compris qu'il y avait quelque chose en Pierre Lombard qui n'était pas vu, qui n'était pas saisi. Et pour ça, il est retourné à Aristote. Aristote était considéré vraiment comme le philosophe, mais saint Thomas l'a considéré aussi comme le philosophe. C'est intéressant, parce que il n'y a pas de philosophie de saint Thomas. Vous comprenez ? Il y a une théologie de saint Thomas, mais il n'y a pas de philosophie de saint Thomas. Il s'est servi d'Aristote. En scolastique, on a voulu retrouver la philosophie à travers la théologie de saint Thomas. Mais vous comprenez, c'est pas digne de la philosophie. À l'intérieur de la théologie, la philosophie est servante. Quand elle est regardée pour elle-même, elle est sagesse. Alors, vous voyez la différence entre sagesse et servante. Ça peut être la même personne qui est sage et qui se met au service d'une sagesse supérieure. Et pour cette sagesse supérieure, il est serviteur. Donc, comprenons bien qu'il n'y a pas de philosophie de saint Thomas, il y a une théologie. Et ça, je crois que c'est capital. En disant ça, évidemment, je sais bien. Tous les thomistes me diront, oh non, c'est saint Thomas, philosophe. Mais saint Thomas n'a pas voulu. L'intention de saint Thomas, c'est ça qu'il faut saisir. L'intention de saint Thomas, il n'a pas voulu nous donner une philosophie. Il nous a donné une théologie. Mais il a compris que Pierre Lombard n'était pas assez clair. C'est un fouillis. Mais le traité de Dieu 1, le traité de Dieu Trinité, c'est dans les mêmes articles. C'est très normal dans la foi, c'est vrai. On croit en Dieu, on croit en Dieu Père. On fait la distinction, mais on l'a fait en priant. Donc on ne la fait pas théologiquement. Et alors, pour ordonner Pierre Lombard, pour jeter un ordre sur sa théologie, il a été poussé, et ça, alors, je crois que c'était vraiment une inspiration du Saint-Esprit. L'Église le considère comme ça, hein, comme une inspiration du Saint-Esprit. Il a été poussé à revenir à Aristote. Donc, à quitter l'enseignement de la Sorbonne de l'époque. La Sorbonne de l'époque était ecclésiale, vous voyez, c'était à l'intérieur de l'Église, le début de la Sorbonne. Mais il a compris qu'il fallait quitter la Sorbonne et revenir à Aristote. Alors, on a attaqué beaucoup saint Thomas en disant la Sorbonne était pour Pierre Lombard. Elle était pour Avicenne. Or, Avicenne, c'était l'arabe, c'était le musulman, mais il croyait en Dieu. Tandis qu'Aristote, c'est le païen. Alors, toute la querelle a été là-dessus. On n'a pas accepté en Sorbonne cette espèce de révolution. On voit historiquement, le père Mandoné souvent montré que c'était de la part de saint Thomas un acte révolutionnaire. Quitter une tradition de 100 ans pour revenir aux philosophes païens. Puisque Aristote est un païen, ce n'est pas un chrétien, est un païen, mais un païen intelligent, qui a découvert l'unique Dieu. Pour Aristote, Dieu ne peut être qu'unique. Et donc la multiplicité des dieux est dépassée pour arriver à la découverte d'un Dieu unique. Et saint Thomas reconnaît que ce que Aristote a dit sur Dieu, on n'a jamais dit quelque chose de plus parfait. C'est intéressant de voir ce que Aristote dit sur Dieu. Noésis, noéseos. Pensée de la pensée. C'est la conclusion d'Aristote sur Dieu. Aristote a sans doute écrit un livre sur Dieu. Du moins, c'est annoncé dans les catalogues des livres d'Aristote, le Peri Touteo. Mais on ne l'a jamais vu. Alors est-ce que ce Peri Touteo a disparu? Vous comprenez, ça aurait été très intéressant d'avoir un livre d'Aristote sur Dieu. On ne l'a pas. Mais on a plus, puisqu'on a saint Thomas qui dépasse. Mais le regard d'Aristote sur Dieu, c'est noésis, noéseos, pensée de la pensée. C'était pour lui l'effort ultime du philosophe d'arriver à dire ça. Et saint Thomas dit, c'est la chose la plus belle qu'on peut dire sur Dieu, la pensée de la pensée. Alors c'est curieux, Hegel, philosophe de notre temps quand même, a fait toute sa philosophie sur ce point de vue, pensée de la pensée. Aristote le dit de Dieu, Hegel le dit de la pensée de l'homme. C'est toute la différence entre ces deux grands philosophes. Et c'est intéressant de voir que Hegel lui-même, pour exprimer sa pensée, commence par la phrase d'Aristote, la pensée de la pensée. Et Hegel considère que la pensée de la pensée, c'est le propre de l'intelligence. Alors que la pensée de la pensée, c'est le propre de l'intelligence de Dieu. Vous voyez ? il oublie que la pensée de la pensée, ce n'est pas le propre de mon intelligence. C'est le propre de l'intelligence divine. Et confond intelligence divine et intelligence tout court. Alors, ceci, c'est pour vous montrer que la pensée aristotélicienne, chez Thomas d'Aquin, c'est le philosophe. Chez Hegel, et on peut mettre les deux en parallèle, chez Hegel, c'est le philosophe et le théologien tout court ensemble. Et Hegel commence toutes ses réflexions philosophiques sur cette conclusion d'Aristote, le propre de l'intelligence, il ne dit pas de l'intelligence de Dieu, le propre de l'intelligence, c'est d'être pensée de la pensée. Donc le propre de l'intelligence, ce n'est pas d'essayer de comprendre ce qui est parmi les réalités que je vois moi-même, mais c'est d'avoir ce regard divin. Alors, c'est très beau, c'est très grand, mais c'est faux. Mais je ne suis pas Dieu. Ceci, c'est pour vous montrer que ce retour à Aristote, c'est intéressant de voir la manière dont saint Thomas retourne à Aristote, la manière dont Hegel retourne à Aristote. Vous voyez, des deux côtés, vous avez un retour à Aristote. Parce que Aristote est considéré depuis tout le temps, depuis surtout saint Thomas, comme le philosophe. Saint Thomas retournant à Aristote, essaie de repenser toute la philosophie d'Aristote. La philosophie d'Aristote a l'immense avantage pour Aristote, c'est que la science n'existait pas encore, mais existaient les mathématiques en Égypte. Les mathématiques ont existé avant la philosophie d'Aristote. Et la philosophie d'Aristote s'est développée en montrant que les mathématiques avaient cet immense avantage d'être une science humaine. L'homme en est la source. Tandis que la métaphysique, métaphysique, vous voyez, c'est un nom qui a été donné par les bibliothécaires. Aristote ne parle jamais de métaphysique. Métaphysique, ça veut dire après la physique. Et Aristote ne parle jamais de métaphysique, il parle de philosophie première. C'est important parce que ça montre tout de suite quelque chose de tout à fait différent. Métaphysique, ça s'appuie sur la physique. Philosophie première, c'est la réalité que le philosophe atteint. Bon. Alors, pour Aristote, puisque il n'y a que les mathématiques, les sciences modernes n'existent pas. Elles ont pris naissance à travers une terre chrétienne, soutenue par l'Église, où l'Église, à ce moment-là, tenait pratiquement tout au point de vue pensée. Et je crois que c'est très important de voir ça. La métaphysique est née chez les païens. La science moderne est née chez les chrétiens. Et on a trois forces qu'il faut toujours regarder. Le développement des mathématiques, qui est très puissant et qui s'est fait un développement, j'allais dire, princier. Aujourd'hui, les mathématiques sont vraiment ce qu'il y a de plus élevé dans la pensée. Ordinairement, il y a les mathématiques qui sont nées les premières, les néoplatoniciens. L'Égypte était très avancée déjà dans la recherche mathématique. Nous ne savons pas grand-chose, mais on sait bien que la construction des pyramides représentait pour eux comme une espèce de réalisation de tout ce que l'homme pensait. Les mathématiques, la métaphysique d'Aristote et les sciences modernes. Et il y a toujours ces trois dimensions. Nous cheminons au milieu de ces trois dimensions. Science moderne, elle est née dans le christianisme. Elle a été soutenue par l'Église. Et la science moderne a commencé par la connaissance de l'homme. Au point de vue biologique et au point de vue philosophique. La science moderne, c'est la dernière, c'est la magémine. Les mathématiques, c'est l'ancêtre. Et entre les deux est née en Grèce, avec Aristote, la métaphysique et une philosophie qui s'achève en métaphysique. Une philosophie qui n'est pas la pensée, la science, qui n'est pas les mathématiques, mais qui est une connaissance à partir de l'expérience que nous avons. Alors, tout de suite, comprenons la grosse différence quand nous avons ces trois. Et je crois qu'il faut toujours cheminer en pensant aux trois. On a deux yeux, mais il va en avoir un troisième, c'est le cyclope. Alors, on a l'œil du milieu, c'est le métaphysique. L'œil de droite et l'œil de gauche. Alors, vous avez la trois. Ce triangle qui est très important et qui est actuel. Actuellement, qu'est devenue la philosophie? Actuellement, la science, elle a tout pris. Et dans la science, le développement des mathématiques qui est principal, qui est premier. Les mathématiques débordent surtout. Elles jouent un rôle de sagesse. Sans être sagesse, mais un rôle de sagesse, de fait. Vous n'avez qu'à demander à vos étudiants qui font médecine. La plupart du temps, ils font médecine sans avoir beaucoup de capacités mathématiques. Et que pour eux, la grosse difficulté, c'est que la première année, il y a pas mal de mathématiques. On y comprend. Et en tant qu'on veut faire médecine, les mathématiques ne nous servent pas grand-chose. Mais les mathématiques règnent. C'est très intéressant de comprendre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Donc, ayons toujours ces trois points de vue en face de nous. Sont différents et tous les trois qui naissent de l'intelligence et qui sont le fruit d'une intelligence. Pour le philosophe, ça naît de la distinction entre raison et intelligence. dans le langage de saint Thomas, ratio et intellectus. La philosophie, c'est le développement de l'intelligence comme intelligence. Les mathématiques, c'est le développement d'une intelligence humaine à son sommet. Et les sciences, c'est le développement d'une intelligence qui est au milieu du monde et qui s'occupe de ce monde. On a là, je crois, bien un aspect très important. La métaphysique et la philosophie, c'est le développement de l'intelligence comme intelligence, l'esprit et le cœur. Le développement mathématique, c'est la raison. Et le développement des sciences modernes à partir de l'expérimentation. Ce n'est pas l'expérience, c'est l'expérimentation. L'expérimentation, c'est une expérience méthodique, c'est une expérience rationnelle, c'est une expérience qui est déjà très élaborée par l'intelligence humaine. Tandis que l'expérience directe du métaphysicien, c'est l'expérience tout court, sans élaboration. C'est l'intelligence qui se trouve dans la réalité. Alors, une fois qu'on a vu ces trois aspects, qu'il ne faut jamais quitter, il faut essayer de plus en plus de bien voir ces trois aspects dans leur orientation. Et le moment où ça a tout brouillé, c'est lorsqu'on n'a plus distingué le développement de l'intelligence comme humaine et l'intelligence comme intelligence. Et pour moi, personnellement, c'est ça qui est très important. Et ça s'est fait déjà au XIVe siècle. Ça a pris une ampleur beaucoup plus grande au XVe, XVIe siècle. Oui, à la place d'avoir raison et intelligence, vous avez l'entendement. Et l'entendement, elle est les deux. Et donc, on ne distingue plus les deux. Alors, parce qu'on ne distingue plus les deux, c'est la philosophie qui en prend un grand coup. Pratiquement dans le développement actuel des choses, le développement des mathématiques est principal. C'est sûr que si on veut être pleinement de notre monde, soyons mathématiciens et grands mathématiciens. Si on veut comprendre ce qui se passe, parce que c'est les mathématiques qui commandent tout. C'est les mathématiques qui ont pris la place de la sagesse. Parce que quand il y a ces trois, on considère que les mathématiques demeurent une science humaine, je ne peux pas découvrir Dieu par les mathématiques. Je découvre Dieu par la métaphysique. Et je découvre l'homme et Dieu par la métaphysique. Et je respecte le développement des sciences. Mais le développement des sciences n'atteint pas la sagesse. Puisque ça reste humain. Un mode humain. Et mon intelligence étant une intelligence d'un homme. Donc une intelligence qui dépend des sens, par notre corps, nous avons cinq sens. Et ces cinq sens aboutissent à une petite intelligence. La dernière de ces intelligences qui est tournée vers le bas, tournée vers le haut et immanente à elle-même. Vous avez trois mouvements d'intelligence que nous pouvons tous comprendre. Hein. Trois développements d'intelligence. L'intelligence, elle est liée au sens. C'est sûr, elle se développe par l'expérience. Mon intelligence a besoin de l'expérience. Si elle n'avait plus l'expérience, elle tournerait en rond. Elle a besoin d'intelligence, elle a besoin des sens, elle a besoin de l'expérience, mais elle est au-delà de l'expérience. L'intelligence, comme intelligence, saisit quelque chose dans l'expérience qu'elle seule saisit, qui reste intelligence. Elle est l'intelligence d'un homme, mais elle demeure l'intelligence comme intelligence. Vous voyez, cette distinction est capitale. Hein. Les mathématiques, c'est une intelligence d'homme, par le point de vue imaginatif. C'est une intelligence d'homme. La métaphysique, c'est l'intelligence comme intelligence. Et l'expérience courante, c'est l'intelligence de l'homme, grâce au sens. Alors, la Grèce, Aristote, cherche avant tout à préciser l'objet propre de l'intelligence comme intelligence. Et c'est ça la métaphysique. C'est préciser l'objet propre de l'intelligence comme intelligence, pas comme intelligence de l'homme, mais comme intelligence. En sachant très bien l'importance de l'expérience. Mais c'est un dépassement de l'expérience. Les sciences modernes demeurent dans l'expérience, l'expérimentation. Et les mathématiques, c'est l'intelligence liée à l'image, l'imagination, au divisible. Mais vous avez, autrement dit, hein, vous avez possibilité de développer votre intelligence comme intelligence. Vous avez possibilité de développer votre intelligence humaine, d'homme. Et là, de deux manières, par les mathématiques et par les sciences modernes. Et il faut comprendre que nous maintenons la recherche de l'intelligence comme intelligence à cause de la foi. Nous maintenons la métaphysique à cause de la foi. Lisez l'encyclique du pape. En première année, ne la lisez pas. Mais en seconde année, vous pouvez la lire. Vous la lirez en théologie. Mais c'est déjà bon de la lire en philosophie. L'encyclique du pape, qui est pour les théologiens. Et elle est nette, si on veut la comprendre. Elle est nette. Je maintiens la métaphysique je maintiens la métaphysique à cause de la théologie. Si je suis chrétien, René, si je ne suis pas chrétien, je maintiens la métaphysique pour le développement propre de mon intelligence comme intelligence. Il y a deux raisons pour lesquelles je fais la métaphysique. Parce qu'on peut se dire, au fond, la métaphysique, aujourd'hui, pourquoi on l'a fait ? Pourquoi on l'a fait ? C'est né avec Aristote, ça a été pris par Thomas d'Aquin, mais je ne suis plus à côté d'Aristote. Je ne suis plus au Moyen-Âge avec Thomas d'Aquin. Alors pourquoi continuer à maintenir la métaphysique ? Je maintiens la métaphysique pour développer en moi l'intelligence comme intelligence. Et pour pouvoir donner à ma foi, possibilité d'utiliser mon intelligence humaine, mais comme intelligence. Donc je fais de la métaphysique pour être un croyant intelligent. Vous vous rappelez ça tout le temps. Parce que on se dit, mais pourquoi faire de la métaphysique comme ça ? Aujourd'hui, c'est vrai, la plupart des gens, la métaphysique vieillirie, retour à Aristote, vous savez. Il vaut beaucoup mieux se mettre à l'école de Descartes, il vaut beaucoup mieux se mettre à l'école de Kant, il vaut beaucoup mieux se mettre à l'école de tout à fait des modernes. Parce qu'à le fond, je parlerai leur langage. Pourquoi on maintient une recherche métaphysique ? C'est pas pour le plaisir de maintenir quelque chose d'ancien. On est conservateur. Donc, au Moyen-Âge, c'était l'intelligence et la foi qui régnaient. Je reviens être un homme du Moyen-Âge. Et je prends l'armure de l'homme du Moyen-Âge. Ce serait très bien. Je suis un historien. Il a le goût du Moyen-Âge, la grandeur du Moyen-Âge. Je veux comprendre les cathédrales. L'architecture des cathédrales. C'est quand même quelque chose de grand. Ça dure encore maintenant, Chartres. C'est quelque chose de beau, de grand. Je veux être l'homme du Moyen-Âge. Non. C'est très bien ça. Ce serait une manière de vivre. Mais nous faisons la métaphysique non pas pour cela, nous faisons la métaphysique pour que la théologie demeure comme théologie, c'est-à-dire, en tant que catholique, j'écoute le pape qui me donne cette encyclique pour moi, Fides et Ratio. Je crois que Fides et Ratio ne peut être intelligible que si on a découvert la nécessité de la métaphysique et ce qu'est la métaphysique. Oui, alors, Fides et Ratio, c'est pas commode à lire. C'est pas commode. C'est même très difficile. Moi, j'ai essayé à Paris avec un petit groupe d'hommes. C'est très difficile. très difficile parce qu'on est tellement formé autrement. La formation de notre intelligence moderne est tout à fait différente. Donc c'est difficile. C'est pour ça que je dis, la première année, ne vous frottez pas trop au fidesse ratio. Si vous le faites, c'est très bien, c'est pas un fruit défendu. C'est très bien de le faire, mais c'est dur, ça, c'est sûr. Puis des générations, il faut le livre avec à côté tout ce qu'on ne comprend pas. Et le noter. Et c'est vrai, ça pourrait être très bien un livre qu'on étudie. Un petit groupe, et comprendre fidesse et ratio, c'est énorme. C'est énorme. C'est l'encyclique la plus nette sur saint Thomas. Et sur la grandeur de saint Thomas. C'est intéressant, n'est-ce pas, Dieu-là ? Alors, je vous demande, n'ayant pas encore lu, de comprendre que c'est l'Église qui nous montre que pour faire de la théologie, il faut se servir de l'intelligence comme intelligence, et non pas de l'intelligence humaine. La science développe mon intelligence humaine. Ma foi, elle vient directement de Dieu. Et elle me fait adhérer à Dieu immédiatement et à la parole de Dieu. Donc, ma foi est au-delà de l'intelligence humaine. Il faut l'intelligence comme telle pour pouvoir saisir le sens profond de la parole de Dieu qui me parle en tant que je suis un être spirituel, un être intelligent, capable d'aimer. Si je me sers d'une philosophie ou d'une connaissance humaine, mathématique, est-ce que je peux unir ma foi aux connaissances mathématiques ? Posez-vous la question, au moins. Il faut se poser la question. C'est une chose qui a été essayée. Au XIVe siècle, on a tout essayé. Pas du 20e, mais au 14e siècle, on a tout essayé. C'est extraordinaire. Après, vous voyez, la pensée de saint Thomas, qui a été très loin, il y a une descente. On est fatigué. Et cette descente fait qu'on a regardé partout. Est-ce qu'on peut mettre les mathématiques ? Les mathématiques, c'est quand même une science magnifique, étonnante, d'une grande noblesse. Est-ce que je ne peux pas allier ma foi aux mathématiques ? Ce serait magnifique, parce que je marcherais à fond avec toutes les recherches modernes. Je serais un catholique parfaitement avant-garde. Je montrerai que les mathématiques me sont extrêmement utiles et me permettent d'avoir une théologie à partir de la foi. Une théologie qui assumerait toute la pensée humaine moderne. Donc, il faut vous poser la question, il faut se la poser. On a un devoir de la poser pour nous. Et se dire, pourquoi l'Église, le Saint-Père n'a pas écrit dans cette Église fidèle, cette ratio, le point de vue foi et science mathématique. En disant à tous les fidèles, nous entrons de plus en plus dans la science mathématique, c'est elle qui est sagesse. Et prenons les sciences mathématiques pour aider le croyant, pour expliciter la parole de Dieu. Pourquoi l'Église ne fait-elle pas ça? Je suis persuadé qu'en disant ça, elle aurait une victoire étonnante. Hein. La pensée mathématique demeure toujours lié au divisible. C'est la recherche de ce qu'est l'être mathématique. Ce qu'est l'être mathématique. J'ai beaucoup réfléchi à ça, grâce du reste au père Gérard des Lauriers, qui lui était un mathématicien. Vrai, enraciné. Et nos conversations étaient tout le temps là-dessus. Qu'est-ce que c'est que l'être mathématique? Est-ce que l'être mathématique est immédiatement capable d'expliciter la parole de Dieu? Est-ce que Dieu est le mathématicien hors ligne? Il faut se poser le problème. Et c'est très important de se le poser. Il faut se le poser dès maintenant. Parce que vous avez le temps de réfléchir. Alors on se pose la question, l'être mathématique, est-ce qu'il nous permet de lier, vous voyez, de servir de l'être mathématique pour expliciter la parole de Dieu. Est-ce que l'être mathématique et la parole de Dieu sont au même niveau ou ont simplement possibilité à un moment donné d'un contact pour qu'il y ait coopération entre la foi et l'intelligence humaine, il faut qu'il y ait un moment de rencontre de la foi et de l'intelligence humaine. S'il n'y a pas de rencontre, s'ils sont deux niveaux tout à fait différents et qui peuvent se développer complètement à deux niveaux différents sans se rencontrer, eh bien oui, ils ne se rencontrent pas. Je crois que la connaissance de foi est un niveau divin. Ce n'est pas suffisant de dire transcendantal. Un niveau divin, la connaissance de foi. La parole de Dieu est une connaissance divine. Mon intelligence mathématique demeure science humaine. L'intelligence liée à l'imaginaire, liée au divisible. La pensée mathématique demeure toujours au niveau du divisible. Et très ténue, l'infini, le divisible qui n'a pas de limite. Et quand on dit justement qu'elle s'intéresse à l'infini, on croirait qu'elle rejoint l'infini de Dieu. Vous avez deux infinis, l'infini du mathématicien et l'infini de Dieu. Et c'est peut-être là où on doit comprendre comment l'infini du mathématicien reste toujours lié au divin. Reste toujours lié à une pensée humaine. n'atteint pas l'être en lui-même. Elle ne peut pas atteindre la réalité dans ce qu'elle a de plus elle-même, c'est-à-dire dans son être propre. Elle reste avec un mode humain très subtil qui peut être quasi infini, mais infini dans un sens mathématique de l'être divisible et non pas de l'être en lui-même. De sorte que je ne peux pas saisir ce qu'il y a de propre à la parole divine par le point de vue purement mathématique. Et c'est pour ça que ces essais qui ont eu lieu au XIVe siècle de faire une théologie mathématique, une théologie qui s'inspire des mathématiques et qui se sert des mathématiques, ramènerait la pensée de Dieu et la parole de Dieu à une pensée humaine. Pensée humaine qui m'est donnée dans les mathématiques. Les mathématiques restent une pensée humaine. Donc, toujours liée à le point de vue divisible. L'être divisible. L'être divisible a une certaine potentialité, alors que l'être de Dieu est acte pur. Alors, je crois que c'est très important pour nous de bien saisir que seule la métaphysique qui regarde l'être comme tel, comme être, peut rejoindre l'acte de foi. Non pas être l'acte de foi, je dis rejoindre, avoir contact avec l'acte de foi. Parce que elle saisit ce qui, dans la réalité, n'implique aucune limite. Saisir ce qui est comme être n'implique aucune limite. Et donc, il y a possibilité, par la métaphysique, d'expliciter la parole de Dieu. Et je ne peux expliciter la parole de Dieu que par la métaphysique. Je ne peux pas le faire par une science inférieure à la métaphysique. C'est pour ça que nous maintenons l'étude métaphysique. En tant que chrétien, alors vous allez me dire, alors c'est pour le chrétien la métaphysique. Non. C'est pour l'homme. Mais pour l'homme capable d'être racheté par Dieu. Pour l'homme capable d'être appelé enfant de Dieu, et une capacité. Cette capacité, elle est naturelle. La métaphysique n'est pas surnaturelle. Elle est naturelle. C'est l'intelligence comme telle qui se développe. Comme intelligence, pas comme intelligence humaine.